Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, le rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Mesdames et messieurs, la rétrospective du jour, on va faire un bond de 62 ans dans le passé, le 30 août 1963, jour où a été créé le téléphone rouge. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ? Eh bien, le téléphone rouge, c'est la ligne directe entre Washington et Moscou qui, pour la première fois de l'histoire, permettait aux dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique de parler en personne sans passer par des intermédiaires. Cette ligne promettait moins d'erreurs, promettait surtout moins d'escalade. C'est ce que ça promettait sur le papier. Alors qu'en est-il? Comment était utilisé ce téléphone? D'où vient son origine? On voit tout ça avec François Vantôme pour la rétrospective. Bonjour François.
Pour comprendre pourquoi ce hotline a vu le jour, remontons à l'un des moments les plus tendus de l'histoire. L'été 1962, Cuba. La crise des missiles soviétiques dans l'archipel a porté le monde au bord d'un conflit nucléaire. Pendant ces jours d'angoisse, les incertitudes et les malentendus ont presque suffoqué la communication. Les décideurs se demandèrent alors et si à l'avenir nous pouvions nous parler en direct sans détour ni filtre quand la situation devient critique. Voilà comment est née l'idée d'une ligne de communication directe et fiable entre les deux grandes puissances. L'accord qui allait rendre cela possible fut signé le 20 juin 1963 par les deux pays. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, l'Union soviétique. Les signataires, parmi eux des représentants du département d'État américain et des ministères soviétiques des affaires étrangères, s'entendirent sur l'installation d'un canal de communication direct et sécurisé entre le pouvoir exécutif américain et le gouvernement soviétique. Après les accords, la connexion fut mise en service et devient opérationnelle le 30 août 1963. C'est ce jour-là que l'opinion publique nommait familièrement le téléphone rouge, cette avancée diplomatique.
Washington-Moscow hotline, a safeguard against hot heads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. This direct communication between the Soviet and American governments is designed to curtail misunderstanding and miscalculation that might touch off a nuclear war. Originally, it was popularly conceived as a telephone line, but the printing makes for more clarity and puts the conversation on the record.
Le premier message envoyé en guise de test comportait toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres arabes. The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le vif renard marron a sauté par-dessus le dos du chien fainéant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les soviétiques avaient répondu par un poème russe. La liaison fut testée quotidiennement dans les années qui suivirent pour vérifier le bon fonctionnement de la connexion. À présent, une question nous vient tous à l'esprit. Est-ce vraiment un téléphone rouge comme on le voit souvent dans les médias ou dans les films hollywoodiens? Évidemment non. Le nom téléphone rouge ne provient pas d'une couleur imposée sur l'appareil, mais d'une métaphore popularisée par les médias et l'imagerie collective. Le rouge est devenu le symbole d'urgence, d'alerte et de gravité, ce qui renforce l'idée que ce canal devait être utilisé dans les moments où chaque seconde comptait. Bien que les premiers dispositifs soient des lignes sécurisées, dont la couleur pouvait varier, l'expression s'est imposée comme un sobriquet historique pour désigner ce lien privilégié entre Washington et Moscou. Aujourd'hui encore, le téléphone rouge demeure une métaphore puissante du dialogue en temps réel entre les dirigeants même si la technologie a évolué. À l'époque, il s'agissait surtout de circuits télégraphiques et téléphoniques sécurisés qui reliaient des centres dédiés à Moscou et à Washington. Par un simple coup de fil, c'était une infrastructure conçue pour l'urgence, avec des protocoles clairs sur la rapidité des messages, la vérification et la précision de l'information. Enfin, évidemment, la technique a aussi évolué avec le temps. Dès les années qui ont suivi, la ligne a connu des mises à jour. Elle s'est adaptée aux nouvelles technologies, passant de systèmes purement télégraphiques et téléphoniques à des solutions plus modernes, plus rapides et plus sécurisées. Aujourd'hui, entre les États-Unis et la Russie, on utilise désormais des canaux dédiés pour les communications d'urgence, des lignes téléphoniques cryptées, des liaisons par satellite et par fibre, ainsi que des systèmes sécurisés de visioconférence et d'échange de données, tous encadrés par des protocoles stricts de sécurité et d'authentification. Le nombre d'utilisations de cette ligne sécurisée reste un mystère. Elle aurait servi pendant les guerres israélo-arabes de 1967 et 1973, lors du conflit indo-pakistanais de 1971 ou encore lors de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979. La ligne aurait également servi lors de l'incendie de l'ambassade des États-Unis à Moscou en 1991. Depuis 1963, d'autres téléphones rouges se sont développés entre les différentes capitales mondiales, notamment Pékin. En 1996, la Chine a établi sa liaison sécurisée avec la Russie, puis avec les États-Unis 2 ans plus tard. Aujourd'hui, le téléphone rouge est en quelque sorte à nouveau d'actualité. Quelques jours après le démarrage de la guerre en Ukraine, en mars 2022, avec les nouvelles menaces d'utilisation de l'arme nucléaire, les États-Unis et la Russie ont mis en place un nouveau canal téléphonique. Cette ligne relie directement le commandement américain en Europe au ministère russe de la Défense. Donald Trump et Vladimir Poutine l'ont à nouveau récemment utilisé pour discuter de la proposition américaine d'une paix durable en Ukraine.
Avec la chanson Mon Amour. Je vous rappelle, cette chanson a fait les belles heures de la France à l'Eurovision. C'était en 2024 avec Slimane et cette superbe performance a cappella, notamment au plein milieu de la chanson. C'était donc l'Eurovision de 2024 avec Slimane. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler de photographie, mais en fond sous-marin avec Franck Gazzola tout de suite après ça.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Alors je vous disais, on va parler de photographie maintenant, photographie avec un Français, photographe en fond marin, Franck Gazzola.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Nous sommes en ligne avec Franck Gazzola, bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous faites du documentaire, vous êtes Français, mais vous vivez à Byron Bay.
C'est ça, exactement.
Racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé là?
J'ai toujours vécu à l'étranger, en fait, depuis que j'ai fini mes études. Et je travaillais dans le corporate avant de devenir photographe. Et donc, Ma carrière, ben en fait, c'était la carrière typique d'un expat qui passe 2, 3 ans dans un pays et puis qui ensuite suit une promotion ou qui se fait chasser et puis qui change de pays. Et j'ai longtemps vécu dans des pays qui étaient très sympas, mais qui étaient au demeurant pas les pays où j'aurais aimé m'installer. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit bon bah ça y est, mon CV est suffisamment robuste, épais pour pouvoir choisir là où moi je veux vivre et le job suivra en gros. Et c'est comme
C'est
ça que je
un
suis arrivé en
luxe.
Australie
C'est
en
merveilleux de
Oui,
pouvoir
bah
se dire ça.
exactement. C'est exactement ça. Ça a été dur pour ma famille de me voir partir, mais c'est exactement ce que je leur ai dit. C'est que je leur ai dit, vous m'avez donné les moyens de pouvoir choisir ma vie, et c'est exactement ce que je fais. Donc, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils devaient être heureux pour moi, même si la distance leur paraissait insurmontable. Enfin, c'était un obstacle forcément quand on a un de ses enfants qui s'en va loin comme ça. Mais
Tous nos
voilà, ça a
parents vivent
été,
la
ça a
même
été.
chose.
Exactement, exactement. Et j'imagine que nous, on y sera peut-être confrontés un jour, donc je comprends très bien. Mais c'est sûr que c'était vraiment là un choix de vie. J'ai grandi en regardant des films de glisse. J'ai toujours été dans la glisse, la planche à voile au départ, le surf et tout ça. Donc grandi en voyant des films sur l'Australie, le côté sauvage, les vagues, le côté nature, les grands espaces. Et donc c'était un endroit où j'avais pas forcément envie de venir pour 3 semaines, 1 mois comme la plupart des gens ou qui repartent frustrés parce ils ont à peine bougé sur la carte. Je me suis dit c'est un pays dans lequel j'aimerais y vivre pour pouvoir y passer plusieurs années et puis vraiment l'explorer. Je vais trouver le job qui va avec. Et donc j'avais été mis en contact avec des chasseurs de tête qui m'ont dit c'est super, t'as un super CV, mais tant que tu viendras pas ici, tu seras qu'un CV. Mais quand t'as des billets, appelle-nous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des billets d'avion, puis je leur ai dit, bah voilà, je viens de telle date à telle date. Et donc là, ils m'ont booké. C'était des vacances, mais en fait, j'ai été en entretien tous les jours quasiment, à Brisbane, à Melbourne, à Sydney. Et puis quelques mois plus tard, j'étais en Australie avec mon visa et avec ma femme, on commençait une aventure qui a commencé en 2011. Voilà.
Ah, j'allais vous demander, donc à l'année 2011 déjà.
Voilà, l'année 2011 et en 2015, j'ai changé de carrière pour devenir photographe. Peut-être qu'on y reviendra, mais enfin voilà. Donc là, ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'on est installé ici. Au départ à Sydney, à Bondi, comme beaucoup d'expats qui arrivent de si loin, et depuis quelques années à Byron Bay.
Et alors justement, oui, on y revient, votre carrière de photographe. Donc on le disait, vous faites des documentaires, vous photographiez les sous-marins, mais pas que. Du coup, on va parler des deux. Et malgré le fait que vous viviez en Australie, votre carrière de photographe vous emmène quand même toujours aujourd'hui aux quatre coins du monde.
Oui, ma carrière de photographe, elle m'emmène souvent assez loin de ma base en Australie, pour plusieurs raisons. Mais je suis ravi quand je peux travailler ici parce que c'est un endroit où j'adore photographier. Donc voilà. Mais oui, j'ai pris un virage. J'avais 35 ans. Je suis tombé un peu dans la photo. Enfin, je me suis mis à faire de la photo en arrivant en Australie. J'ai juste avant d'arriver, j'avais fêté mes 30 ans et on m'avait offert un appareil photo, un réflexe numérique, un des premiers réflexes numériques un peu sympa qui était sorti. Et ça m'a redonné le goût à la photo, chose que j'avais fait un tout petit peu quand j'étais au lycée. Mais c'était l'époque du film, ça coûtait cher de faire des photos, ça coûtait cher de les tirer et tout ça. Bref, donc c'est quelque chose que j'ai pas suivi. Et puis mes 30 ans sont arrivés, j'ai eu cet appareil photo. Et puis en arrivant en Australie, tout était nouveau, tout était frais. Et puis il y avait tous ces sujets que j'affectionnais particulièrement, comme l'océan, les paysages, le surf. Toutes ces choses-là. Et puis je vivais comme dans une grande ville à Sydney, donc il y a aussi le côté ville qui est assez fascinant. Il y a quand même des points d'intérêt assez dingues à Sydney. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai commencé à refaire de la photo, à reprendre goût à la photo. C'était le point de départ en fait d'une passion qui m'a amené à faire une rencontre. Et cette rencontre, un jour, m'a dit, tiens, est-ce que tu veux pas travailler avec moi, en tout cas collaborer dans ma galerie? Et c'était une galerie de photos d'art autour de l'océan. Donc c'était autour du surf, des plages de Sydney. Voilà, c'était vraiment la thématique principale, c'était les photos d'océan, des belles photos que les gens veulent mettre au mur, parce que ça se fait beaucoup ici, veulent mettre au mur dans leur salon, une grande reproduction d'un très beau lever de soleil à Bondi Beach ou d'une très belle vague pendant une tempête, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à collaborer pour cette galerie. Et puis, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment de la photo semi-professionnelle. Ou d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup. Il y a eu un petit peu de temps avant que les gens commencent à acheter mes images parce qu'elles étaient quand même assez mauvaises au départ. Et puis, mais ça m'a ouvert des portes. Et puis, puis un jour, quelqu'un veut faire un mariage. Alors je shoot un mariage. Je fais ça le week-end en plus de mon travail. Voilà. Et c'est comme ça que ça, en 2 ou 3 ans, j'ai grandi en fait de photographe qui débutait à photographe amateur à photographe semi-pro. Et un jour, j'ai sauté le pas en 2015 et je suis parti.
Ok, est-ce que tout tient à une rencontre et à des chances dans la vie? Je veux dire, c'est pas du tout pour remettre en question un certain talent, mais j'imagine que dans ce secteur, la concurrence doit être énorme.
C'est marrant que vous parliez de ça parce que quand je fais des conférences, j'en parle en fait et j'explique que le talent pour moi c'est quelque chose d'un peu presque surfait et que je crois beaucoup plus en fait au travail, à la persistance, à la résilience et aussi à ces rencontres. Mais en fait ces rencontres j'aurais très bien pu les faire et jamais donné suite, jamais pris la balle au bon.
Ouais,
Et
transformer une
moi
rencontre en
j'ai
opportunité.
exactement. Je me suis dit ouais pourquoi pas. Et je sais qu'au début il y a des gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux ou dans les newsletters à travers les newsletters en disant ouais c'est qui ce nouveau il est mauvais. Et j'aurais pu très bien me dire oh là là bon j'arrête c'est pas fait pour moi. Et en fait quand je me faisais piquer comme ça au vif parce que j'avais un manque de talent, un manque d'expérience, ça me donnait plus envie de travailler et de compenser mes lacunes plutôt que de me laisser abattre. Voilà, je prenais ça plus comme un challenge et donc ça c'est plutôt quelque chose qui tient, je pense, à une façon de voir les choses et une personnalité. Et c'est comme ça que j'ai toujours avancé en fait dans ma carrière là depuis que je suis photographe. C'est que je suis arrivé tard, sans être formé, donc complètement autodidacte, dans un marché saturé. Et se faire une place objectivement dans un contexte qui est celui-là, c'est compliqué.
Est-ce que vous faites encore aujourd'hui de la photo d'art? Enfin non, je devrais reformuler parce que toute photo est un art. Est-ce que vous faites encore aujourd'hui de la photo esthétique ou maintenant vous ne faites uniquement que de la photo documentaire dans le but de raconter des choses, montrer des évolutions?
J'essaye de marier les deux parce que c'est quelque chose que j'aime faire malgré tout, rendre les choses belles et capturer des choses que je vois que je trouve captivantes, fascinantes et j'ai envie de le faire, de le partager aux autres. Mais souvent, ça rentre dans le cadre de projets, d'histoires à raconter. Et ce qui fait qu'un documentaire peut être puissant, c'est que ça allie le storytelling, donc raconter une histoire, à la composition et à l'esthétisme en général. Donc j'essaie de marier les deux, ce qui est pas toujours les trois plutôt, et c'est pas toujours évident, mais j'essaie de le faire. Alors après, oui, c'est sûr que je fais moins, pour être honnête avec vous, de prendre mon appareil photo et de partir avant le lever du soleil et d'aller faire les photos comme je faisais quand j'étais à Sydney, que j'étais plein de motivation, de stamina, et pour aller prendre des levées de soleil spectaculaires. Juste pour moi, je le fais assez peu maintenant, sauf quand je suis en vacances ou quoi. Aussi parce que je pense que, comme n'importe quoi, dès que ça devient professionnel, on n'a plus tout à fait le même rapport à l'art qu'on pratique. Donc quand je faisais ça comme quelque chose à côté, j'étais hyper motivé, j'avais tout le temps envie de photographier. Maintenant, je vois le travail que ça va être derrière la photo que je vais faire. Après, il y a le dérush, après, il y a l'editing, après, il y a le poster sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, ou je sais pas. Et parfois, je suis tellement occupé à juste faire mon travail que de m'en rajouter comme ça, c'est pas toujours quelque chose que je fais naturellement. Il y a une autre chose aussi pour moi, c'est que c'est quand même une expression artistique, c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie quand on est en tournage, en mission. Et souvent, entre les missions, j'ai besoin de prendre mon souffle. J'ai envie d'avoir envie de continuer à faire de la photo, j'ai envie d'avoir envie de me dépasser le jour où je fais une mission pour quelqu'un, pour un client, ou pour raconter une histoire. Donc quand j'ai des temps de pause, j'en profite aussi pour respirer. C'est un peu comme une respiration. Voilà. Donc maintenant, quand je suis plus on, je suis off, en tout cas sur le côté photographique.
Et donc vous parliez de vos clients et notamment certaines photos professionnelles que vous prenez, c'est les fonds marins. Vous faites les fonds marins de plusieurs endroits du monde, pas que les fonds australiens. Et parlez-nous un petit peu, justement, ça nous intéressait, comment c'est là-dessous?
Ce que je pourrais répondre à ça, c'est ça restera très très parcellaire. Et pour plusieurs raisons, c'est que un, moi, je connais assez peu finalement, même si j'y passe beaucoup de temps, et aussi parce qu'on connaît assez peu sur les fonds marins. Il y a cette phrase de Sylvia Earle, cette exploratrice, qui dit qu'on connaît beaucoup mieux la surface de Mars qu'on connaît nos océans. Parce que Mars, on peut observer tout le temps, il y a toujours un télescope qui peut être pointé sur Mars. On n'a pas cette capacité-là pour les fonds marins. Donc on en connaît assez peu, et c'est un peu la dernière frontière inexplorée sur la Terre, ce sont les fonds marins. Et c'est pour ça que c'est aussi passionnant et fascinant à faire.
Comment vous en êtes venu à photographier les fonds marins?
Bah, j'étais toujours passionné d'océan, comme je vous le disais, le surf, la planche à voile, tout ça, ça c'est un environnement qui me passionnait beaucoup. Je me suis mis à faire des photos aussi dans l'eau, justement pour faire des photos notamment de sports de glisse, etc. Et puis, un jour, je collaborais pour cette galerie à Sydney. Le propriétaire de cette galerie me dit, je déménage, je pars à Newcastle, je vais fermer la galerie. Et là, c'était un espèce de coup de massue. Je me disais, oh, c'est pas possible. Ça faisait 2 ans que je collaborais avec lui, et puis mes images commençaient à se vendre, et puis je commençais à avoir vraiment un but pour faire des images. Mes images commençaient à être un peu meilleures. Je commençais à avoir un peu plus d'expérience, et donc ça m'a mis un coup de massue. Je me disais, oh, mais si ça s'arrête. Bon, bref, j'ai racheté la galerie. Et je faisais ça en plus de mon travail de cadre dans une grosse boîte. Et j'ai racheté la galerie et j'ai dû refaire le site internet. Et pour refaire le site internet, on m'avait mis en rapport avec en relation avec un Français qui était installé à Sydney et qui faisait des sites web. Et il me demande, le jour où on se rencontre, c'est quoi ton rêve de photographe? Et j'y avais jamais vraiment pensé, mais je lui ai dit spontanément, écoute, moi, quand j'ai grandi en regardant Jacques Cousteau. Tous les dimanches, je regardais Cousteau, et puis je regardais Thalassa le vendredi soir. Donc voilà, les aventures de Cousteau, aventures au long cours, où il y a un aspect de découverte, il y a tous ces aspects-là de travail d'équipe et tout ça, c'est quelque chose qui me parle. Et il me dit, c'est incroyable que tu me dises ça, je connais ce couple de Français qui s'appelle Emmanuel et Guilain Bardou. C'est des explorateurs sous-marins, mais c'est aussi des explorateurs polaires. Donc ils explorent non seulement les fonds marins, mais ils explorent aussi sous les glaces. Et ils sont en ce moment même au nord du Groenland, en expédition, sur leur bateau avec leur équipe, en train de faire de l'exploration sous-marine polaire. Et il me dit, si tu veux, je peux te mettre en relation avec eux, je peux faire un email d'intro. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il fait cet email d'intro, et moi, bah, j'ai envoyé un email, 2 emails, 5 emails. Et un jour, j'ai eu une réponse de leur part, me disant, on a déjà un photographe, mais on aurait besoin d'un deuxième photographe pendant une période donnée, pendant l'hivernage du bateau, qui sera pris dans les glaces, sur la côte ouest du Groenland. Et on a fait un Skype. J'ai eu le job. J'avais jamais plongé, vraiment. J'avais eu fait mon open water, donc c'est le niveau vraiment zéro de la plongée. Et bah là, j'avais 6 mois, et pendant 6 mois, je suis allé faire de la plongée tous les week-ends. Je suis allé au club de plongée à côté de chez moi. Je leur ai dit, voilà, j'ai ce job incroyable. Je vais partir avec ces explorateurs sous-marins au nord, à l'ouest du Groenland. Est-ce que vous pouvez me former? Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Et donc là, j'ai mangé, mangé, mangé de la plongée pendant 6 mois. J'ai acheté un caisson et puis je m'y suis mis comme ça. Et je suis parti au Groenland pendant 3 mois avec eux, pendant que le bateau était en hivernage, donc pris dans les glaces, pris dans la banquise pendant toute la durée de l'hiver. Et je les ai rejoints à ce moment-là, et j'ai fait de la plongée sous la banquise avec eux. Et j'ai fait mes premières images, vraiment mes premières images sous-marines, je les ai faites là-bas avec eux. Donc j'ai commencé un peu par le plus dur.
Oh,
Et
c'est
puis,
violent pour commencer, oui.
ouais, c'était violent pour commencer. Et j'ai commencé en fait avec eux comme ça. Et puis, bah, ça m'a mis le pied à l'étrier là-dessus, sur une nouvelle discipline que je connaissais assez peu. Et j'ai continué à me former, et puis 18 mois, même pas 18, 12 mois plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, est-ce que tu veux devenir notre photographe officiel? Et on part pour 3 ans autour du monde, de l'Arctique à l'Antarctique, en passant par le Pacifique, et j'allais devenir leur photographe officiel. Donc là, on partait pour des missions longues, et là, la plongée, j'allais en faire beaucoup, et de la plongée, et des photos sous-marines, j'allais en faire énormément. Et donc je me suis un peu de facto spécialisé comme ça en suivant cette expédition. Parce que bah, c'était tout le cœur de métier de cette expédition, c'était le travail de découverte des fonds marins pour des scientifiques.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
monde de demain, une chanson du groupement des Enfoirés. Je vous rappelle les Enfoirés, c'est un groupement de chanteurs français très connus qui se retrouvent tous les ans pour toute une série de concerts, mais le but est de lever des fonds pour les Restos du Cœur. Voilà, si vous ne connaissiez pas le rôle des Enfoirés. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants en ce samedi sur Radio SBS et on va parler de crédit carbone tout de suite après ça.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en studio avec Benoît Francou. Ben, bonjour.
Bonjour Marianne.
On s'est rencontrés à la conférence Lumière Verte lors de Bastille Day. C'était une conférence dédiée à la place des femmes dans le secteur de l'énergie. Et on a discuté de vous, Ben, de votre métier, de vos ambitions pour le climat ici en Australie. Vous faites ça depuis longtemps et notamment depuis bientôt 2 ans avec Aetium. Expliquez-nous le but de cette entreprise.
Alors Aetium, ça vient d'un entrepreneur qui s'appelle Christopher Ride, qui veut dédier le reste de sa vie au climat. Il a 2 ou 3 sociétés qui permettent de réduire ou de capturer le carbone. Des sociétés de technologie, des fermes, des fermes de kelp. Il a des projets aussi de stations de chargement de véhicules électriques dans l'arrière-pays. Plein d'idées. Et alors, Aetium, c'est ça crie A-E-T-I-U-M. L'idée, c'est de démocratiser l'accès au crédit carbone. Parce qu'aujourd'hui, le crédit carbone, qui est une sorte d'étape nécessaire à la transition net zéro, qui permet de financer des projets pour, par exemple, la reforestation, les énergies non renouvelables, parce qu'il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire. Tant qu'on voudra voyager, retourner à Paris en avion, eh ben, il y aura des émissions. On peut pas arrêter tout du jour au lendemain. Le marché du crédit carbone, il est là pour permettre une transition, pas asphyxier les entreprises qui ont des émissions, qui veulent les réduire, mais ça se fait pas du jour au lendemain. L'inconvénient du marché aujourd'hui, c'est que c'est un marché très fermé aux grandes entreprises. Et donc, du coup, si on n'implique pas ou responsabilise pas tout le monde, eh ben, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Est-ce que vous ne visez que les entreprises, voire les entreprises qui vous paraissent tellement inatteignables que c'est votre seul objectif ou aussi tout à chacun?
C'est plutôt l'inverse. On voudrait presque renverser la pyramide en permettant à tout le monde, donc vous, moi, les petites entreprises, de participer. On a créé une plateforme qu'on appelle Sustainability Platform. On a des actions climat tous les jours. Par exemple, conduire un véhicule électrique, avoir des panneaux solaires qui fonctionnent, avoir une parcelle de forêt qu'on maintient, qu'on fait grandir, qu'on entretient. Ça, c'est des actions de climat qui participent ou à la réduction carbone ou à la séquestration. Et en gros, si on essaye de comprendre d'où vient le carbone, les excès de carbone aujourd'hui, ça vient de la production d'électricité et du transport, à 80%. Et donc, en permettant à des propriétaires individuels ou des petites entreprises de transformer leur production d'énergie solaire ou leur kilomètre vert, entre guillemets, en véhicule électrique, on veut pouvoir leur donner des crédits carbone. Donc, ils génèrent des crédits carbone chaque année.
Être récompensés, voilà, en faisant une bonne action.
Exactement. Et chaque année, en vendant ces crédits carbone, ils auront un nouveau revenu qu'ils pourront utiliser pour améliorer leur installation, par exemple, ou acheter...
Donc, ils peuvent transformer leur crédit carbone en argent.
Voilà.
Payé par Aetium.
Oui.
OK. Et pour que ce soit très concret, une personne, un individuel tout seul et une grosse entreprise, plus de 500 salariés. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en gestes écolo et à combien de crédits carbone ça correspond?
Aujourd'hui, un système solaire qui fait à peu près 30 panneaux solaires, c'est 10 kilowatts. Ça peut générer $500 par an, à peu près, au prix du marché. Nous, on pense qu'on peut prouver notre intégrité. Tout est enregistré sur la blockchain. Donc, c'est traçable de A à Z. Et à l'inverse du marché qui est prospectif, qui fait des estimations sur ce qui peut se passer, nous, on regarde toujours dans le rétroviseur. On ne reconnaît et récompense que ce qu'on peut mesurer. Et c'est un peu l'innovation. C'est que on peut prouver notre intégrité chaque année parce qu'on ne récompense que ce qui est observable. La première ressource d'une entreprise, c'est ses employés. Et il y en a beaucoup qui veulent montrer qu'ils ont du leadership pour l'action climat. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire. On a créé une sorte de modèle privé de notre système qui permettrait à une entreprise de, par exemple, dire « je veux que tous mes employés, ils enregistrent leurs panneaux solaires, leurs véhicules électriques sur notre plateforme et qu'on puisse acheter les crédits carbone qu'ils auront générés à la fin de l'année. » Et du coup, ça crée une sorte de, en interne, un nouveau bénéfice dans employee benefit. Et ça permet à l'entreprise de reconnaître et de récompenser ces choix durables faits par leurs employés.
Une entreprise comme Aetium, elle est bien reçue dans un pays comme l'Australie ?
Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le marché du carbone, il est tellement fermé que peu de gens comprennent. Donc on a un gros travail d'éducation. Par contre, à tous ceux à qui on parle, qui sont dans cet univers, ils comprennent très bien où est-ce qu'on s'intègre. Notre objectif, c'est d'arriver à démocratiser l'action climat. C'est pas de dire, tiens, on veut faire de l'argent sur le marché du carbone. On est effectivement un marketplace, mais on veut permettre à la communauté, les gens, les petites entreprises, de participer. Parce que si on ne responsabilise pas tout le monde, ça va prendre 10 fois plus de temps. On ne peut pas le laisser que au gouvernement ou que aux grosses entreprises qui se nourrissent d'administratifs. Pour soumettre un projet carbone, c'est un an de travail. Les audits, c'est hyper cher. Donc du coup, ça limite tout de suite le nombre d'entreprises qui peuvent jouer. Et du coup, ça empêche, ça asphyxie en fait tous les autres qui voudraient participer.
Et pour autant, au fil des années, vous diriez que ça va dans le bon sens ?
Pour prendre l'exemple de la forêt, par exemple, j'ai lu que depuis que les colons anglais sont arrivés en Australie, la surface de la forêt a diminué de moitié.
Donc pas dans le bon sens.
Alors ça c'était
premier fait.
En prenant cette baseline. Mais depuis quelques années, c'est stable. Et ça, c'est légèrement en croissance. Et nous, c'est ce qu'on veut encourager au niveau de la forêt. Vous aurez sûrement des détracteurs qui disent « Ah, mais vous récompensez des forêts existantes. » Sauf que si on ne le fait pas, elles n'ont pas de valeur. Et si elles n'ont pas de valeur, elles sont coupées. Prenons l'exemple de fermiers qui font le choix de couper des arbres pour mettre des bêtes, ils le font parce que quand on fait les comptes, ils y ont tout intérêt. Si on commence à leur dire gardez vos arbres, mettez des clôtures et on va vous rémunérer pour les maintenir, ça va mécaniquement orienter les choix. Nous, c'est ce qu'on veut faire par rapport aux forêts et on travaille avec des NGO, des local councils, des state governments pour arriver à transformer les forêts en assets, pour que ça soit valorisé comme tel et que qu'on réfléchisse à deux fois avant de faire des projets immobiliers où on coupe 200 hectares de forêt.
Merci beaucoup Ben Franco.
Mon plaisir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps.
Love et tendresse, une chanson d'Eddie de Preto en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et si on parlait d'apprentissage du français facile comme bonjour, tout de suite après ça.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous sommes en studio avec Anne Morel. Anne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coach en langue française depuis plus de 15 ans et vous travaillez notamment avec les Australiens qui veulent apprendre le français, mais qui hésitent encore à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Vous aidez les gens à prendre confiance pour se lancer dans un français plutôt conversationnel, mais vous allez nous expliquer, Anne, vous faites les choses à l'envers. Alors,
exactement.
Je m'explique, vous faites un peu un pied de nez à la méthode traditionnelle, puisque plutôt d'apprendre une langue et de la mettre en pratique, vous faites exactement l'inverse. Votre méthode à vous, c'est de mettre en pratique, enfin de parler tout simplement, et ensuite apprendre sur le tas.
Exactement.
Expliquez-nous.
Oui. Alors, oui, après une quinzaine d'années, 16 ans, j'ai pu observer, j'ai pu tester, j'ai pu découvrir, j'ai pu apprendre beaucoup de choses qui ont fait que on apprend une langue, pas pour l'apprendre, mais pour la parler. Et malheureusement, c'est là où est la difficulté. Donc, oui, j'ai inversé tout le système éducatif dans ce sens où j'emploie comme première méthode parler et d'apprendre sur le tas.
On va en parler dans un instant. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne et à quel point ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'ici, quand on vit en Australie, il y a une fascination autour de la France, des gens qui parlent français, de la culture française. Dès qu'un Australien se rend compte qu'on est français, quasiment 9 fois sur 10, il va dire « Oh, bonjour, ça va? Je m'appelle Francis. » Je dis n'importe quoi. Et on se rend compte qu'ils ont quelques notions, mais ça s'arrête là. Et vous, vous vous dites, en fait, tout le monde est capable de parler français. Si justement, ils tiraient cette petite phrase un peu plus loin, ils pourraient devenir bilingues assez facilement.
Oui, oui. Alors, oui, on a le français ici, en Australie, à Melbourne, est numéro un, même dans l'enseignement des langues dans les écoles. On adore le français, on adore la culture française, et puis tout ce qui va avec, bien sûr. Et pour ce qui concerne de parler, justement, beaucoup ont appris le français à l'école. Et quand il s'agit de parler, tout est le problème. On a des connaissances ici et là, mais on a toujours du mal à s'exprimer.
Mais alors, c'est un problème de confiance en soi?
Ah, c'est un problème de conscience en soi, mais moi, je dirais qu'il y a trois choses qui font que aujourd'hui, on a du mal à s'exprimer dans une langue, que ça soit le français ou même une autre langue que l'on apprend à l'école ou dans une institution, par exemple. La première chose, c'est que c'est, comme vous l'avez expliqué au début, l'ordre des choses. On apprend souvent à l'école par rapport à des apports passifs, ce qu'on appelle des inputs. Donc, on nous donne des informations comme de la lecture, des exercices, de la grammaire, mais tout ça fait que on stocke beaucoup d'informations, mais on n'apprend pas à extraire cette information. Et lorsque l'on parle, on a besoin de ce qu'on appelle en anglais retrieval. On a besoin d'extraire cette information pour être capable de l'utiliser. Donc, en fait, le cerveau, il a énormément d'informations, mais il ne sait pas quoi en faire. Donc, quand il s'agit de parler, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il prend ce qu'il trouve et la plupart du temps, quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il bloque, il panique et tout ce qu'on en a appris, ça disparaît.
Vous disiez qu'il y avait trois choses.
Oui. La deuxième chose, c'est que on préconise ou on encourage de ne pas faire des fautes. Donc, par exemple, si on fait un exercice, on a un bon point si on a la bonne réponse et on a un point en moins si on a la mauvaise réponse. Or, les erreurs font partie de l'apprentissage d'une langue. Le cerveau a besoin d'avoir toutes ces erreurs pour comprendre la logique de la langue. Et malheureusement, en classe, on nous dit non. Vous devez être parfaite ou parfait avant de pouvoir parler. Donc ça, c'est la deuxième chose. On n'assume pas, en fait, ces erreurs. Et quand on veut parler, on bloque parce qu'on se dit, eh ben non, on ne doit pas faire d'erreur. On doit être parfaite. Notre prononciation doit être parfaite. La grammaire doit être parfaite parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école, par exemple.
Même nous, on fait des erreurs quand on parle
exactement
français alors que c'est notre langue. Et la troisième?
Et la troisième, c'est que je dirais que c'est, on se concentre énormément sur la grammaire. Donc oui, la grammaire française.
C'est le béaba quand même.
Oui, mais c'est le béaba, mais encore à l'envers. On l'enseigne à l'envers. Moi, je dirais que tout ce qui est grammaire, c'est un outil de soutien. Ce n'est pas et ça ne devrait pas être le point de départ. Par exemple, si vous apprenez une règle de grammaire en classe, on va vous apprendre la règle de grammaire, on va vous apprendre l'exception, on va vous apprendre l'exception de l'exception de l'exception. Et quand vous allez essayer de parler, tout ça va disparaître. Parce que, encore une fois, votre cerveau ne fait aucune connexion. Alors que si vous parlez, vous faites des erreurs et que vous apprenez la grammaire en parlant, cela met tout ça en contexte et donc vous aide à mieux comprendre la langue. Donc, l'enseignement de la grammaire, c'est bien, mais pas dès le début.
Dans un second temps, oui.
Voilà.
Et alors, donc, le point de départ, c'est de parler. Mais comment on se lance? C'est quand même super difficile quand on n'a pas de base. Comment on se lance? Et vous, ce que vous dites, c'est que tout est prétexte à parler français. Absolument tout.
Exactement. Donc, on apprend comme un peu les enfants, en observant, en écoutant, en utilisant nos mains, nos gestes. Et au fur et à mesure, on apprend du vocabulaire, on construit des phrases progressivement. Donc, ce n'est pas le but de chercher la perfection dès le début, mais c'est vraiment de construire, de comprendre la langue et surtout de mettre tout ça en pratique.
Donc on met en pratique comment? Avec un menu dans un restaurant? Avec quelqu'un qu'on croise dans la rue?
On peut commencer avec tout, vraiment de tout. Par exemple, en ce moment, je fais ce qu'on appelle des street chats. Donc je vais au centre-ville, je vais dans les rues et je demande aux gens donc quels sont les mots français qu'ils connaissent. Et ils se rendent compte en fait qu'ils connaissent beaucoup de mots. Mais même en leur disant un ou deux mots, j'entourne ça pour faire une phrase, ils apprennent la phrase, et c'est le début. Tout ce qui implique la curiosité est une bonne chose, justement, pour apprendre une langue.
Alors, pour les auditeurs qui ont écouté cette interview et qui sont intéressés pour eux-mêmes ou pour une connaissance, vous avez fondé le site internet, ça s'appelle Facile comme Bonjour, et il y a plusieurs niveaux, donc beginners, intermediate, vous le disiez tout à l'heure. Comment ça se passe?
Pour ce qui est débutante, j'ai un programme qui dure 8 semaines et je travaille en collaboration avec ce que l'on appelle un laboratoire de langue, où là, vous pratiquez votre oral, vous apprenez un petit peu de vocabulaire dont vous avez besoin pour commencer. J'enseigne d'une façon le vocabulaire très différent, c'est-à-dire que j'évite toute traduction en anglais. Donc, on apprend le français en français dès le début. Et on se sert aussi de ce laboratoire pour justement pratiquer à parler, parce que je ne peux pas être disponible 24 heures sur 24, mais vous avez des questions qu'on vous pose, vous pouvez répondre, le laboratoire va vous corriger, va vous aider avec votre prononciation. Et tous les 15 jours, en fait, nous faisons une réunion ensemble, en ligne, et ils me posent des questions, on pratique, etc., etc. Oui. Pour ce qui concerne le niveau intermédiaire, j'ai un programme qui s'appelle le Confident French Speaker Program, et là, en fait, c'est un programme de 12 semaines où je vous fais sortir de votre zone de confort pour justement construire cette confiance dont vous avez besoin pour pouvoir parler français. Parce que les connaissances, ce n'est pas seulement une chose, mais c'est avoir la confiance de pouvoir utiliser tout ça à l'oral. Donc ça, c'est un programme de 12 semaines. Et j'ai aussi un groupe de conversation où l'on pratique ensemble la conversation en français. Donc tout ce que j'offre est basé sur la conversation dès le premier jour.
Ça, c'est pour les cours, mais il y a aussi des événements.
Exactement. Donc, en fait, mon but, c'est vraiment de donner le plus d'opportunités possibles à des apprenants en français pour qu'ils puissent parler le français, mais en plus le partager avec d'autres apprenants qui apprennent la langue. Donc en fait, je fais beaucoup d'événements, que ça soit des événements sociaux. Par exemple, j'ai fait dernièrement le French Speaking High Tea. Donc on va dans une pâtisserie française, on parle en français, on fait des jeux, on rencontre d'autres personnes, parce que bien sûr, construire une communauté, c'est très important, surtout que lorsque l'on apprend une langue. Et donc, je fais beaucoup d'événements, donc des événements sociaux, des conversations, événements là où aussi on est concentré sur juste parler le français. Ça peut être aussi des événements selon les activités qui se passent à Melbourne, par exemple lorsqu'il y a eu le film The French Film Festival. Donc là, ce que je fais, c'est que je lis une activité et ensuite avec un repas. Donc ça nous permet non seulement de vivre quelque chose de la culture française, mais en plus de le partager après autour d'un bon repas de cuisine française, bien sûr.
Facile comme bonjour, en somme. Merci beaucoup.
Exactement.
Anne Morel.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
De ce qu'ils pensent de toi, de ce qu'ils pensent de nous deux. Baby, y'a rien d'insurmontable. Je sais que ça t'a fait du mal.
Et c'était Orage par le groupe Boomerang en ce samedi sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.